À l'époque, paisibles, les jeunes filles et les héritiers anglais de tendance libérale accomplissaient leur tour initiatique de l'Europe, avec débordement florentin. En armes et en troupes, les Allemands et plus allaient, les Balkaniques changeaient d'air. Tous s'emmenaient avec eux-mêmes et promenaient, de manière plus ou moins dévastatrice, leurs angoisses inutiles. En voyageant, on pouvait craindre de se trouver en mauvaise compagnie. Plus encore que les pays étrangers, les colonies le dégoûtaient. Elles cumulaient pour lui tous les désavantages, en Algérie, la saleté arabe et la petitesse française, la pétanque au souk, en Indochine, les complots mandarinos ajoutés aux complots francs-maçons, l'opium et la piastre, en Afrique, le pastis dans la nuit couleur de café. Le Mexique était la seule exception à ce refus du voyage. Il n'y était jamais allé mais se promettait souvent de le faire. Cette envie remontait à l'enfance quand, juché sur les genoux d'un oncle estropié, il s'endormait au récit de Puebla, d'un sommeil peuplé de chasseurs d'Afrique égarés dans ce désert à cactus, et où le capitaine d'Anjou le saluait paternellement en agitant sa main de bois. Ainsi, lorsque l'envie de bouger le prenait, il voyageait en France seul le plus souvent. Depuis Paris, il suivait les cours d'eau dans une vieille calèche louée à l'heure, remontant la Bièvre jusqu'au moulin de Vauboyen. Parfois, le vendredi, un omnibus le portait au cœur de la Sologne, à Nançay, à la Motte-Beuvron. Puis il parcourait, conduit par le premier paysan venu, la forêt sablonneuse avant de dîner devant une église à l'abside en roussaille, le calcaire du pays. C'était bien suffisant. Il régnait dans la cour de la salpêtrière la douce torpeur des matins d'été. Augustin Pierre fut remarqué par deux infirmières voilées qui, leur garde achevée, gagnaient le boulevard. Les fatigues de la nuit devaient leur donner froid, car elles portaient, malgré le soleil, le long manteau bleu des hôpitaux. Il se retourna pour composer en esprit le tableau d'un peintre hospitalier, deux silhouettes en uniforme sous un porche frappé, vers la cour, de l'inscription familière, à Administration générale de l'assistance publique à Paris. Huile sur bois, ayant appartenu à divers amateurs, mise à prix relativement élevé, quelques centaines de francs peut-être. Il tenait beaucoup à ces moments fugitifs où l'on se regarde exercer le métier qu'on a choisi. Lorsqu'on l'exerce, l'histoire est différente, avec ses bons et ses mauvais moments. Mais rien ne peut se substituer au sentiment de connaître suffisamment le monde où l'on est plongé, pour, renonçant un instant à l'explorer, à le changer peut-être, fermer à demi les yeux, et ne plus voir que les quelques masses colorées qui forment sa substance. Ainsi, ce matin-là, confusément mêlé dans l'esprit d'Augustin Pierre, ces deux femmes dont il ne pouvait seulement dire s'il les trouvait jolies, ces mots d'assistance publique et cette longue façade pareille à celle des Invalides, derrière laquelle tant de malades subissaient la dureté du dévouement. Une nouvelle fois l'image du théâtre s'imposa à son esprit. Des personnages, des événements en trop grand nombre, ni les actions ni les destins ne convainquant tout à fait. En apparence, rien dans le théâtre n'est laissé au hasard, mais c'était précisément l'exactitude, la rigueur des enchaînements dans une seule vie, et dans les vies entre elles qui lui donnaient si fort l'impression que le hasard le plus pur gouvernait tout. Ses parents, son pays, ses amours, sa carrière jusqu'à la mort, on ne choisissait rien. C'était parfois drôle et parfois triste, lui-même n'était ni l'un ni l'autre. Il jouissait du ciel matinal, de quelques personnes et du beau métier qu'il avait choisi. Il jouissait aussi d'ignorer l'avenir. Il aurait volontiers accepté la prédestination. Le bonheur, en apparence, échapperait toujours à la prédestination, et le bonheur se réduisait pour lui à la saveur de quelques instants, saveur que même le sentiment persistant, non de l'absurde, mais de l'inachèvement de tout, ne l'empêchait pas de goûter. Il s'était accommodé de ce sentiment. Il s'y était habitué comme on s'habitue à une infirmité. C'en était une peut-être, de prendre du plaisir à la vie tout en la trouvant à ce point incomplète. De fait, on le trouvait souvent curieux avec son air d'être là sans y être, mais il n'avait jamais avoué, sans doute n'avouerait-il jamais, il parcourut plusieurs couloirs. Au milieu de l'un d'entre eux, À l'entrée de la salle du puits traîne un chariot comme abandonné sur lequel une forme humaine gignait faiblement. D'une voix égale, il appela l'infirmier de garde et lui dit « Vous savez, mon ami, un jour je vous laisserai les tripes à l'air pour aller faire mon whist. » L'homme balbutia deux mots qui n'atteignirent pas le chirurgien. En haut du premier escalier, une silhouette familière l'attendait. Comme chaque jour, l'agrégé, qui aimait les rites et les habitudes, se plut à voir un visage trop long et trop fin sortir d'une blouse trop grande. Au-dessus d'une paire de lunettes d'écaille en demi-foyer, un regard bleu semblait prendre ses distances avec des cheveux noirs et un teint olivâtre, et ce regard était intelligent. Dès le premier jour, en accueillant son nouveau chef de clinique, Augustin Pierre avait été frappé de cette apparence paradoxale, fragile. Persuadé des imperfections de la médecine de son temps, Lacombe restait au bord des choses, risquait peu, n'agissait qu'à bon escient. Trop peu au gré de ses concurrents, qui y voyaient de l'habileté. Plus souvent qu'il n'eût été nécessaire, pour sa carrière au moins, il mettait, entre les rêves ou les visions quelquefois inspirées de ses maîtres et la réalité, l'espace d'un peut-être à la fois doux et sceptique. On aurait pu l'imaginer évêque ou diplomate ou critique littéraire. Il semblait en effet, à 35 ans, n'avoir rien choisi. Autant cette réserve et cette incertitude apparente irritaient ses collègues, autant elle lui valait, dans le personnel et chez les malades, une certaine considération. Sa résistance physique, un peu inattendue, sa capacité de travail y ajoutait encore, et aussi une certaine coquetterie, lorsque ce petit homme fluet faisait résonner dans les amphithéâtres une véritable voix de stentor. Augustin Pierre ne s'était jamais vraiment interrogé sur la personnalité de Lacombe. Il appréciait assez exactement ses qualités et ses défauts professionnels, et montrait pour le reste une indifférence de bon aloi. Il tenait de son père que les hommes ne jugent pas, mais se protègent. Il n'avait pas besoin de se protéger, même d'un être aussi différent de lui. Ils avaient d'ailleurs un point commun, que l'on peut appeler le goût des lettres, et des conversations de médecins portées sur la littérature, à ceci près qu'Augustin n'aimait pas les romans. À quoi bon ajouter au hasard de la vie des hasards littéraires? Ensemble ils traquaient les symptômes, fureur utérine chez Madame Bovary, delirium tremens un peu partout chez Zola, tréponème érédosiphilitique chez Rousseau, mélancolie chez Mirbeau, la satyriasie sénile de Hugo, qui portait un étui phallique en baleine de corset, était un de leurs thèmes préférés. Seule l'aphasie de Baudelaire leur inspirait le respect. Parfois, après une intervention difficile, ils se retiraient dans la bibliothèque du service pour lire à haute voix le code des pensions militaires d'invalidité, et appliquer au tout venant les descriptions impitoyables qui y figuraient. Elle obsession de ruine et de pourrissement, c'était Barret, elle incontinence verbale, Jip, le délire chronique, Huisman, la névrose d'Abbate.